Vous êtes sur RTL. RTLi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats et d'opinions, puisque comme tous les jours, vous le savez, vous aurez la parole sur le 32-10 des 13h pour réagir au grand thème de l'actualité. Avec à la une d'RTL Midi de ce jeudi 28 juillet, un nouveau constat alarmant, édifiant pour notre planète. En ce 209e jour de l'année, l'humanité a consommé tout ce que notre Terre peut produire en un an sans l'épuiser. Un nombre de jours qui s'amenuise chaque année. Comment endiguer ce phénomène? Constat et réponse dès le début de ce journal. À chaque jour, son départ de feu. L'Ardèche hier, l'Hérault la veille, ce sont aujourd'hui les Alpes d'Haute-Provence qui sont touchés par un feu qui s'est déclaré dans les gorges du Verdon. Un camping a été évacué. Nous serons sur place à Castellane dans 5 minutes. Après avoir connu une certaine stabilité au dernier trimestre, les chiffres du chômage publiés hier montrent que le nombre de demandeurs d'emploi a chuté significativement de plus de 22%. Alors les jeunes, rois du marché, en position de force pour évoquer ces nouveaux comportements, ces nouvelles tendances aussi. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, sera notre premier invité d'RT. Midi. Il sera suivi par Laura Georges, l'ancienne internationale de football aux 182 sélections. Viendra nous parler de cette déception, cette nouvelle désillusion après la défaite de Buzyn de l'équipe féminine en demi-finale de l'Euro hier en Angleterre. On va essayer de comprendre avec elle pourquoi il nous manque encore ce petit quelque chose pour faire la différence. Question du jour, vous sentez-vous concerné par ce jour du dépassement aujourd'hui jeudi? Vous dites oui à 30%, non? À 63%, 7% ne se prononcent pas. On va revenir sur ce chiffre tout à l'heure et jusqu'à 13h, vous pouvez réagir toute la journée sur le site rtl.fr. La météo, ça vous concerne beaucoup, bien sûr aussi, c'est un élément peut-être aussi. Claire Delorme, bonjour à vous.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Une journée pour l'ensemble du pays, plutôt calme?
Exactement, mais un petit peu plus de nuages quand même, hein, sur un bon tiers nord du pays, avec quelques petites ondées qui ne sont pas excluantes, des averses orageuses en direction des Pyrénées et du massif des Alpes, du soleil partout ailleurs et un mercure compris entre 25 et 30 degrés.
Merci mille fois Claire Delorme, à tout à l'heure, plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Midi.
En ce juillet, en ce jeudi 28 juillet très précisément, drôle de moi, puisque déjà l'humanité aura donc consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire en un an. Je parle de l'eau, de poissons, du bois, de l'énergie. Les humains épuisent donc les ressources de la Terre, mais ce n'est pas une fatalité. On l'espère en tout cas. Virginie Garin est avec nous, responsable du service qualité de la vie. Bonjour à vous Virginie.
Bonjour à tous.
Est-ce qu'on peut prendre l'exemple par exemple de l'alimentation? Que pouvons-nous faire, Virginie, nous tous, hein, chacun, sans nous priver, tout en continuant à manger, en nous faisant peut-être aussi plaisir, hein?
Alors déjà au maximum, mangez ce qui vient de votre région, ça fait moins de transport, des produits de saison, en plus ils sont moins chers. Ensuite, la plupart des poulets et des cochons sont nourris au soja. Et ce soja, il vient souvent d'Amérique du Sud. Et pour le faire pousser là-bas, il coupe la forêt. Donc là, ça a un gros impact.
Quand je vous écoute et quand j'écoute beaucoup de témoignages ou d'organisations depuis ce matin, il ne faut plus manger de viande du tout?
Non, alors nous sommes tous des omnivores. Alors c'est vrai que dans nos aliments, la viande a un gros impact sur l'environnement, mais tout arrêter, non. Le WWF va lancer une grande campagne pour nous inciter à en manger un peu moins. Pierre Canet est porte-parole de l'ONG.
Donc notre pari, c'est de pouvoir expliquer aux Françaises et aux Français comment changer de régime alimentaire, pourquoi ça peut être agréable, pourquoi c'est bon pour la santé. Si vous mangez de la viande tous les jours, espacez cette consommation de 2-3 jours. Assurez-vous que 3 fois max par semaine, vous consommez de la viande.
Alors pour le bœuf, il faut mieux choisir du bœuf de race à viande, charolais, salers, des vaches qui mangent de l'herbe qui sont dans les pâturages et qui ne sont pas enfermées toute l'année dans des bâtiments, parce que l'herbe, ça capte le carbone, donc c'est bien meilleur pour le climat.
Irène, pour ceux qui mangent végétarien, ils vont pouvoir continuer à acheter ces fameux steaks, vous savez, ces carpaccio végétaux là. Les députés voulaient, on s'en souvient, interdire ces appellations, mais le Conseil d'État hier les a autorisés à nouveau.
Oui, il y a plein de produits qui ont des noms de viande, des burgers, des carpaccio, des steaks, mais qui n'en sont pas. Ils sont faits avec des végétaux, du soja. La filière viande avait obtenu leur interdiction. Eh bien, le Conseil d'État estime que les fabricants de ces faux steaks n'ont pas eu assez de temps pour s'adapter, pour changer leurs étiquettes. Donc, on va encore trouver des lardons végétaux pendant quelques mois.
D'accord.
Bon appétit.
On a bien compris aussi qu'on vivait à crédit, hein, désormais sur notre planète. Hein. Il faut en être conscient. Les algues, c'est bon pour la santé aussi ?
Les algues, c'est excellent pour la santé. C'est l'aliment du futur parce qu'il ne faut pas beaucoup de terre pour les cultiver. Elles poussent toutes seules dans l'eau et puis il n'y a pas besoin de pesticides. Donc c'est un peu le... Et c'est plein de protéines et c'est... ça peut être délicieux.
Si je vous pose cette question, Virginie Garin, c'est qu'on va vous retrouver juste avant 13h puisque vous êtes allé prendre le rôle, endosser un super métier en tout cas, puisque vous êtes productrice d'algues, vous êtes transformée. Voilà, vous êtes allé sur un terrain où on peut cultiver les algues et on sera en immersion avec vous tout à l'heure juste avant 13h. Puis réagissez évidemment sur cette journée, cette incroyable 28 juillet maintenant, on a déjà épuisé toutes nos ressources. Qu'en pensez-vous? Que pouvons-nous faire? 3210, 3210. À 12h35, au cœur de l'été, la vigilance sur le front des incendies est toujours omniprésente. Pas un jour en ce mois de juillet sans départ de feu. Hier, c'est le département des Alpes de Haute-Provence qui est concerné désormais depuis hier, en tout cas avec pas moins de 400 personnes qui ont été évacuées d'un camping au cœur du site majestueux des Gorges du Verdon. Célestin Bougère, vous êtes avec nous, vous êtes sur place pour RTL, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes très précisément à Castellane auprès de personnes évacuées.
Oui, ici, pas de grande fumée noire à l'horizon. La frayeur pour les vacanciers, c'était hier soir. Un père de famille me racontait qu'il a aperçu les flammes à quelques mètres de sa tente. Des vacances un peu bizarres, me confiait-il. Comme lui, les nombreux touristes présents dans ce magnifique site des Gorges du Verdon ne s'attendaient pas à un tel événement. Sur les coups de 20h hier, 400 personnes ont été évacuées de ce camping. Vous l'avez dit, la moitié, dont 74 enfants, ont été accueillis ici, dans le gymnase de la Castellane, là où je me trouve actuellement. Depuis, les familles s'occupent comme elles peuvent. Certains profitent pour découvrir le village à pied, d'autres jouent aux cartes, mais évidemment, elles n'ont qu'une seule envie, revenir aux vraies vacances. La décision du retour ou non dans le camping sera prise aux alentours de 15h par les 210 pompiers engagés. Le feu a déjà détruit ici 400 hectares et il progresse toujours.
400 hectares, merci pour toutes ces précisions. Vous êtes à Castellane pour RTL. Célestin Bougère, quant à l'incendie qui a ravagé en une seule journée hier près de 1200 hectares dans l'Ardèche, sans faire de victimes, il est lui quasiment fini. Et nous sommes, comme souvent aujourd'hui, à l'heure des questions, surtout après avoir dénombré pas moins de 7 départs différents autour, notamment de la grande ville d'Aubenas. Guillaume Chiasse, bonjour.
Bonjour.
Les enquêteurs ont très vite remonté, en tout cas sur ce feu-là, sur ces 7 départs de feu, la trace d'un suspect.
Oui, un homme d'une quarantaine d'années qui se trouvait à proximité d'un nouveau départ d'incendie sur la commune de Saint-Julien-du-Cerf, en Ardèche. Dans sa voiture, du matériel de nature à pouvoir allumer d'un feu a été retrouvé. Mais cet homme n'a pas pu être placé immédiatement en garde à vue. Il était fortement alcoolisé lors de son interpellation hier en fin de matinée. Et les gendarmes n'ont pu l'entendre sur les faits que plus tard, une fois son passage en cellule de dégrisement terminé.
Que risque concrètement un pyromane aujourd'hui ?
Alors, il faut distinguer. Un pyromane, il l'a fait exprès d'allumer un feu. C'est volontaire et ça, c'est très sévèrement puni par la loi. Une peine maximum de 15 ans de prison ferme, 150 000 euros d'amende. En revanche, la justice sera plus tolérante pour celui ou celle qui allume un incendie
par imprudence. Un agriculteur qui fait un petit feu, par exemple, chez lui.
Voilà, qui est imprudent, en fait, qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'incendie se propage. Dans ce cas, la peine la plus haute sera d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Merci à vous, Guillaume Chiesse, service police-justice d'RTL. Un rapport très attendu cet après-midi, celui de l'inspection générale de la justice. Il concerne le décès à la prison d'Arles d'Ivan Colonna, après une violente agression de la part d'un autre détenu. 5 mois après, ce rapport sera remis dans la plus grande discrétion, alors que logiquement il devait être rendu public. Il sera remis tout à l'heure à la Première Ministre, en tout cas son cabinet. Sylvain Cormier, l'avocat de la famille d'Ivan Colonna, était l'invité d'RTL Matin.
On était quasiment sûr que ça se passerait comme cela. Ça montre que l'objectif de transparence annoncé n'est pas réalisé. Ce rapport contient sans doute des éléments qui sont si troublants qu'il ne faut pas les communiquer. Et je crois que c'est la raison de cette espèce d'omerta. La justice, de toutes les façons, aura ce rapport. Et donc la famille d'Ivan Colonna aura accès à ce rapport, quoi que fasse le gouvernement. La famille d'Ivan Colonna, depuis le début, veut savoir ce qui s'est passé exactement. Comment se fait-il que pendant 10 minutes, deux détenus que l'on considère comme particulièrement signalés sont laissés seuls 10 minutes dans une cellule sans surveillance, porte fermée alors qu'elle aurait dû être ouverte. Et c'est évidemment une entorse grave à la parole donnée.
Sylvain Cormier, ce matin, invité d'Olivier Bois dans la matinale d'RTL. Dans un instant, on parle économie de bénéfices record pour Total ou encore pour Stellantis, le groupe de constructeurs automobiles Fiat, Chrysler et PSA. Tout de suite.
Christophe Pacaud,
RTL Midi. RTL Midi
avec Christophe Paco.
Et à 12h40, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, vient d'annoncer que nous sommes au pic de l'inflation. Elle va commencer à baisser, cette inflation, dès 2023 et confirme ainsi que le litre d'essence coûtera 50 centimes de moins dès le mois de septembre. Le groupe Total Énergie d'ailleurs a publié des chiffres records encore une fois, 5,7 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre, bien sûr conjugué avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec cette hausse des cours du pétrole et du gaz qui fait rage en ce moment. Et puis côté bénéfices net encore record, même exceptionnel. Bonjour Christophe Bourroux.
Bonjour.
On parle du constructeur évidemment Stellantis. On rappelle, hein, sur les constructeurs automobiles, c'est Fiat Chrysler d'un côté et de l'autre c'est le groupe PSA. Bénéfice de net de 8 milliards d'euros.
Oui, en effet, il s'agit d'un record pour ce premier semestre et cela grâce aux ventes de voitures électriques en progression de 50% avec 136 000 véhicules vendus. Le groupe a ainsi doublé Tesla en Europe et se rapproche du numéro 1 Volkswagen. Dans le détail, gros carton pour la petite, vous savez, Fiat 500 version électrique en Italie, en Allemagne et en France. C'est la version branchée de la 208 qui est en tête et cela malgré un contexte difficile, notamment avec la pénurie des semi-conducteurs. En réalité, pour le PDG Carlos Tavares, il a fallu bien faire un choix.
Oui, nous avons privilégié le véhicule électrique et ensuite nous avons raisonné par marge. C'est-à-dire que nous avons fabriqué les véhicules qui avaient les plus fortes marges au détriment des véhicules qui avaient les plus mauvaises marges, de façon à protéger l'entreprise dans ce contexte.
Oui, Stellantis s'en sort bien dans ce contexte difficile, hein, puisqu'au total, les ventes de voitures sont en baisse de 7% et la crise des semi-conducteurs est encore loin d'être terminée, pas avant l'an prochain, prévoit Stellantis. On peut donc s'attendre encore à des délais de livraison à rallonge pour les véhicules.
Merci à vous Christophe Bourroux, Service économique et social d'RTL. Et puis dans l'autre sens, hein, Christophe, on vient de parler de Total, de Stellantis. EDF a subi de son côté une perte historique au premier semestre de 5,3 milliards d'euros en raison de la baisse de production, notamment d'électricité nucléaire. Et puis bien sûr, il faut compenser par l'État, hein, cette facture pour qu'on revienne à zéro quelque part. Et on parle toujours de nationalisation d'EDF, bien sûr. 12h42, on reste dans le secteur du travail et ce manque cruel ces dernières saisons d'employés dans beaucoup de secteurs, hein. Alors, puisqu'on manque de compétences, quoi de mieux que de former ces propres et ses futurs salariés, de préférence les plus éloignés de l'emploi, ceux que l'on appelle communément les décrocheurs. C'est l'effort que réalise en ce moment le groupe hôtelier Hyatt avec un programme baptisé Rise Eyes. Le groupe compte former et embaucher en CDI 250 jeunes issus des quartiers populaires d'ici 3 ans. Reportage pour RTL, signé Pierre Herbulot.
Au dernier étage de l'hôtel, dans la suite numéro 25 et sa vue panoramique, 1300 euros la nuit, Garaba vérifie que tout est prêt pour accueillir de nouveaux clients.
Bah là, le lit nickel, bien tiré, bien tracé. Juste à remettre les peignoirs là-bas. Là.
À 21 ans, sans expérience ni emploi et après un bac pro raté, il est sélectionné par le programme de recrutement d'Hyatt. Il quitte son quartier de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise pour le groupe d'hôtels de luxe. Un très gros changement pour lui qui ne sortait jamais du lit avant 15h.
Le travail, ça me disait rien. J'aimais bien rester chez moi en fait. La formation, c'était dur, hein, je voulais arrêter. J'ai tenu le coup et finalement, ça a payé. Hein. Au début, je ne pensais pas que c'était accessible. Hein. C'est plus nous, on se ferme les portes parce que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur quand on ne connaît pas le milieu. Et bah, je pense que les jeunes, ils devraient se lancer. Hein.
Aujourd'hui, il est en CDI et compte bien grimper les échelons dans ce secteur en manque de bras. Du gagnant-gagnant pour Michel Moreau, vice-président d'Hyatt France.
Cette tension qui existait dans les métiers de l'hôtellerie, elle existait avant le Covid. Le Covid a accéléré les choses. Pourquoi recruter de façon aussi diversifiée? Parce que oui, il faut recruter. Mais deuxièmement, nous sommes aussi convaincus que nos hôtels doivent ressembler au monde dans lequel on vit.
La deuxième promotion d'une vingtaine de jeunes est en train d'être formée en ce moment. Du 5 étoiles de la place Vendôme au célèbre Martinez de Cannes. Ils seront tous embauchés en CDI d'ici la fin de l'année.
Pierre Herbulot, voilà donc un exemple concret ce midi. Alors que selon les chiffres publiés hier, le chômage chez les jeunes en tout cas est inférieur aujourd'hui. C'est intéressant, à 16%. Pour aller plus loin avec nous dans RTL Midi, Benoît Serre, qui est le vice-président de l'Association nationale des DRH et occasionnellement, et même pas occasionnellement, et généralement directeur des ressources humaines de L'Oréal, il est avec nous en direct. Bonjour à vous.
Bonjour.
Oui, vous travaillez, hein, vous travaillez quand même, faut pas l'oublier.
Oui.
Voilà.
Oui.
On a l'impression à une vraie bascule en ce moment avec cette jeune génération qui est très courtisée, qui compte bien. On a le sentiment, en tout cas, de ce qu'on entend ici à droite à gauche, imposer ses conditions désormais. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le constatez?
Oui, bah c'est sûr que le rapport de force a changé d'une certaine manière. Effectivement, il y a une reprise économique pour le moment qui est assez forte. Hein, donc, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées et donc vous avez basculé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés avec des jeunes qui aujourd'hui ont constaté que les organisations des entreprises, parfois trop strictes ou trop organisées, n'étaient pas immuables, puisque la crise Covid l'a démontré.
Oui, c'est vrai que ces jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils veulent des horaires plus souples? Ils veulent quoi? Des semaines de 4 jours? Ils veulent avoir leur mot à dire, finalement?
En fait, d'abord, il ne faut pas se perdre de vue que l'aspect rémunération, il reste quand même en tête des ventes, hein, quand ils sont candidats. Mais après, ils vous posent des questions, effectivement, sur le nombre de jours de télétravail, sur... la liberté dans l'organisation du travail. Certains vous disent, moi, je voudrais être à 80%. Donc, c'est vrai qu'on a vu un peu les critères changer. Mais ça, c'est lié sans doute un peu à la crise, mais aussi au fait que la reprise économique étant forte, ils savent qu'ils ont plus de chances de trouver un emploi que quand on était dans la phase de chômage de masse. Donc, oui. Ils augmentent le nombre de critères.
Et ils augmentent le nombre de critères. Ça va jusqu'à un télétravail là où ils le souhaitent, quoi, quelque part. Et on n'est pas non plus dans la fidélisation complète où on se souvient, ouais. On se disait avant, quand tu rentres quelque part, tu restes toute ta vie, quoi, tu fais ta carrière.
Oui, ça c'est fini depuis quelques années et je pense que ça ne va pas s'arranger. C'est pour ça que le chiffre qui est sorti ce matin, il sera intéressant de voir dans un an, sur tous ces jeunes qui ont trouvé un job là dans les derniers mois, combien sont encore dans la même entreprise. Parce que c'est vrai que nous, on observe une volatilité assez forte, en fait, qui est lié au fait qu'effectivement, soit l'organisation ne leur convient pas, mais surtout parce qu'ils savent qu'ils arriveront assez aisément à retrouver autre chose.
Et ce qui est fou, on l'entend beaucoup dans les auditeurs à la parole, notamment, ce sera le cas tout à l'heure, peut-être entre 13h et 13h30, c'est que la pénurie, autant pour un opérateur, j'allais dire, que pour un ingénieur.
Oui, alors c'est ça qui est un peu nouveau. C'est-à-dire que la pénurie, on la connaissait depuis longtemps, sur les profils très tech, ingénieurs, etc., parce qu'il n'y en a pas assez qui sortent des écoles tous les ans. Là, maintenant, ça touche à peu près tous les secteurs et tous les niveaux. Et donc, soit parce que les conditions de travail ne sont trop difficiles, c'est le cas de l'hôtellerie-restauration, soit parce qu'il n'y a pas assez de la rémunération n'est pas assez élevée. Autrement dit, ça touche à peu près tous les secteurs, alors qu'avant, c'était réservé à ce qu'on appelle les profils rares. C'est d'accord. Vrai qu'aujourd'hui, en finance, par exemple, c'est difficile de trouver des gens. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Mais ils prennent plus de risques aussi, ces jeunes, ils sont peut-être même plus malins. C'est quoi? Il y a l'apprentissage, il y a l'alternance, il y a aussi le côté auto-entrepreneur pour se lancer.
Vous avez ça, vous avez une attractivité assez forte de ce qu'on appelle les start-up ou les grosses start-up. C'est vrai qu'ils sont assez intéressés pour les entreprises qui sont moins grandes. Vous savez, la désaffection pour les entreprises, les grosses entreprises, elle est pas nouvelle en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'ils vont chercher des entreprises où ils ont le sentiment qu'ils seront plus libres, qu'il y aura moins de lourdeur, moins d'organisation administrative, ce qui est pas toujours vrai, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est aussi une tendance qui fait que ça cumule un peu les soucis pour les grandes entreprises en particulier.
Très rapidement pour conclure Benoît Serre, est-ce qu'il y a une tendance à tendre la main vers les seniors aussi, quelque part, à un moment?
Alors vous avez cité mon activité principale, qui est quand même d'être derrière la France. C'est vrai qu'on a lancé un mouvement avec d'autres entreprises qui s'appelle Génération Plus, Génération 50, parce que justement, on sait qu'en France, en revanche, on est des très mauvais élèves de l'Europe, et qu'il faut que tout le monde se relève les manches, les entreprises comme les pouvoirs publics, pour améliorer le taux d'emploi des seniors qui reste quand même relativement faible. Ça, c'est vrai.
C'est bien de ne pas l'oublier. On en parle tout à l'heure sur le 32-10-3-2-1-0, sera passionnant. Vous aurez la parole. Merci à vous, Benoît Serre, vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et bien sûr DRH de L'Oréal France. Merci d'avoir été en direct avec nous.
RTL Midi.
Dernier conseil des ministres. Demain, j'ai bien noté. Bonjour à vous, Thomas Desprez.
Bonjour.
C'est bien ça, avant des vacances qu'il faudra prendre. Là aussi, j'ai
pas
bien noté.
Pas trop loin de Paris.
Pas trop loin de Paris. Et attention au bilan carbone aussi, hein, pas non plus des jets privés pour revenir à chaque fois. On est d'accord?
On est d'accord.
Mais sobriété. Et une question qui mérite tout de même d'être posée aujourd'hui. Que deviennent finalement, que font ceux qui avaient un portefeuille avant, nos anciens ministres?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a ceux qui sont tout simplement au chômage, hein, qui cherchent encore à se recaser. Pour eux, c'est d'abord les vacances. Bon, pas de panique, hein, les anciens ministres conservent pendant 3 mois leur salaire. Ça laisse un peu de temps de voir venir. Et puis, il y en a d'autres qui savent déjà ce qu'ils vont faire à la rentrée. Jean-Michel Blanquer, par exemple, lui, il va redevenir prof à la fac. En attendant, il passe quelques semaines au soleil en Amérique latine. L'ancien ministre des Transports, lui, Jean-Baptiste Djebbari, a déjà rejoint un fabricant de voitures à hydrogène et il fait le tour du monde pour aller chercher des investisseurs. Pendant ce temps-là, Jean Castex, lui, va s'occuper des infrastructures de transport. Alors, dit comme ça, c'est pas très sexy, en clair. Il va s'occuper des autoroutes et des chemins de fer. Okay. Et Roselyne Bachelot, elle est là. Plein de projets.
J'ai la chance d'avoir des livres à écrire. J'ai 3 commandes de livres, dont un premier manuscrit que je dois rendre le 30 septembre. Et je prépare ma rentrée. J'ai eu plein de messages où les gens m'ont dit « Chouette, on va vous retrouver aux grosses têtes !»
Alors que les fans des grosses têtes se rassurent, hein, Roselyne Bachelot sera bien là à la rentrée dès le mois de septembre sur RTL avec toute la bande de Laurent Ruquier.
Voilà pour les nouvelles de ceux qui ont quitté donc, leur ministère. Merci à vous, Thomas Després, service politique d'RTL. C'est sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Elle se passe aujourd'hui en France. Mohamed Ben Salman est l'invité d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il est invité à dîner, d'où la colère des défenseurs des droits de l'homme. Cette rencontre, en tout cas, signe un peu plus encore la réhabilitation du prince héritier saoudien, moins de 2 semaines après la visite du président américain Joe Biden en Arabie Saoudite. Il est 9h10, 12h50.
Forcément, il y a de la déception, il y a de la frustration parce qu'on est à 90 minutes minimum de Wembley et l'objectif, il n'est pas atteint. On n'a pas su jouer notre jeu comme d'habitude.
C'était une très dure bataille contre l'Allemagne.
On a gâché beaucoup d'actions, c'est dommage.
Trop peu de tirs cadrés.
Déçu, mais le prochain Euro, on le gagnera, ça c'est sûr.
Oui, à la fin, en tout cas, c'est l'Allemagne qui gagne, surtout hier soir après le match en Angleterre, cette demi-finale. Vous venez de reconnaître évidemment Wendy Renard et puis des enfants supporters des Bleus. Nos Bleus, nos demoiselles qui ont vu leur rêve d'aller en finale à Wembley s'évanouir hier soir avec une joueuse d'exception face à Alexandra Popp. 2-1, c'est la défaite du jour. Mais on a l'impression qu'il nous manque pas grand-chose. Alors on va appeler une spécialiste. Elle travaille de temps en temps avec nous et c'est un plaisir, on s'en réjouit. À M6W9, c'est Laura Georges qui est avec nous. Bonjour à vous, Laura.
Bonjour.
Vous êtes aussi une joueuse à 182 sélections en équipe de France, on l'oublie pas, et vous travaillez à la Fédération Française de Football. On a l'impression qu'il nous manque surtout sur ce match juste un tout petit truc, quoi. Qu'est-ce qui peut nous manquer? C'est quoi la meilleure joueuse? Une Katoto par exemple qui n'était pas là, blessée?
Je ne sais pas si c'est effectivement l'absence de Marie-Antoinette Katoto. Après, c'est vrai qu'on a quand même des joueuses de qualité. Sur ce match, ce qu'on pouvait ressentir, c'est que au-delà du fait qu'on a une équipe talentueuse et des joueuses de qualité, c'est qu'on avait quand même une Allemagne qui avait compris que la France utilisait les espaces et ils ont bien refermé les espaces dans le sens que la France ne puisse pas développer son jeu. Après, effectivement, elles ont une joueuse qui est... Enfin, il faut savoir que l'Allemagne, c'est une équipe qui est très efficace et elles l'ont montré sur 2 actions. Elles n'ont pas bien plus de 2-3, mais elles ont été efficaces.
C'est ça, Laura, quand je vous disais que eux, ils avaient Alexandra Popp, en tout cas, elles avaient Alexandra Popp, et nous, il nous manquait peut-être cette Mbappé au féminin qu'il nous faut pour, en plus, développer peut-être encore plus l'image du football féminin.
Non, je dirais pas que c'est... Non, je pense pas que c'était une joueuse qui manquait. C'était simplement, en fait, d'être efficace sur les opportunités qu'on avait.
Oui.
Ça aurait pu aider. Peut-être que 2 jours de récupération, ça aurait aidé. Mais on va pas se trouver non plus d'excuses. Mais effectivement, c'est sur l'ensemble du tournoi, au-delà de la qualité, je le répète, c'est vraiment l'efficacité qui nous a manqué au-delà du match de l'Italie.
C'est quoi pour vous? C'est un nouveau coup d'arrêt? Il y a encore plein d'espoir, il y a les Jeux chez nous. On sera au top à ce moment-là dans 2 ans?
Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Moi, quand je vois la qualité des joueuses et des filles qui étaient encore sur le banc, qui ne sont pas entrées, je pense notamment à Sandy Bâtiment, qui est du Paris Saint-Germain. Je me dis qu'il y a encore des... et la Palisse, de la jeune génération qui monte. Je me dis qu'on va continuer à se préparer. Il y a notamment la Coupe du Monde l'an prochain en Australie, en août prochain. Donc je me dis, puis on a Paris 2024. Donc il y a encore des étapes pour continuer à progresser et surtout pas relâcher.
Pas relâcher.
Surtout pas trop relâcher. Ouais.
Et avec la même équipe, je vois, puisque ce matin, Noël Le Graët a répondu à quelques interviews et visiblement, donc il va proposer à Karine Diacre de continuer l'aventure. Hein. C'est ce qui vous semble logique?
Ce qui pourrait être logique au niveau des résultats. Après, on pourra toujours revenir sur le choix du coach, mais ça, c'est bien le président qui fait ses choix et voilà, il maintient sa confiance en Karine Diacre.
Allez, on a confiance en nos Bleus. Vous avez dit, il y a une Coupe du Monde. Allez chercher en Australie, et puis il y a surtout un titre olympique chez nous. Ça serait formidable. Vous qui avez connu 182 sélections, vous savez l'importance que c'est de ce maillot, bien sûr. Merci mille fois à Laura Georges qui a joué dans les plus grands clubs, que ce soit en France ou à l'étranger, comme à Munich. Et en France, elle a joué dans les deux plus grands clubs, Paris et Lyon. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'il y a une étape féminine aujourd'hui dans le Tour de France, avec de la 5e étape qui amène les coureuses de Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges. Et puis l'info qui vient de tomber il y a quelques instants, si vous êtes passionné de Formule 1, le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, a annoncé qu'il va prendre sa retraite en toute fin de saison. Dans un instant, elle est loin de prendre sa retraite. Elle va consommer des algues. Oui, c'est l'immersion du jour. Virginie Garin, tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL en immersion.
C'est un de vos rendez-vous phares de l'été. RTL a donné carte blanche à ses journalistes pour changer de métier. Alors on le sait, Virginie Garin, vous étiez avec nous tout à l'heure, à midi et demi dès le début de ce journal pour parler de ce dépassement aujourd'hui sur notre planète au niveau de la production. Vous avez choisi il y a quelques jours de devenir algocultrice. Donc, en clair, vous voulez produire des algues, car elles sont, selon vous, un aliment d'avenir. Et il y a des producteurs, essentiellement en Bretagne, et quelques-uns sur l'île de Ré, c'est là où vous êtes rendu d'ailleurs, hein, à Saint-Clément-les-Baleines, qui en produisent. Et de ces parties, sans plus tarder, avec vous, Virginie Garin, pour cette petite cueillette.
Oui, exactement, j'ai mis des grandes bottes là et je vais descendre dans un bassin qui est en fait une clair. Vous savez, ce sont ces parcs où sont élevées les huîtres ici sur l'île de Ré. Et je suis avec Cédric Fortunier. Bonjour Cédric.
Bonjour Virginie.
Et donc je vais essayer de ne pas glisser. Voilà, c'est parti, on va essayer de remplir nos paniers.
Oui, il y a des algues partout sous nos pieds là, on se baisse et on met ça dans les bacs.
C'est quoi comme algue ?
Alors c'est de la laitue de mer. Là, elle a une belle couleur, elle a bien nourri.
Cédric, comment ça pousse les algues ?
Ben, ça pousse tout seul, il faut qu'elles soient dans l'eau de mer et qu'on leur apporte des nutriments. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça enchaîné avec des coquillages. Les coquillages, disons, font caca dans l'eau, hein, pour faire simple. C'est le système du fumier dans un champ, ça enrichit l'eau et ça pousse.
Là, on est juste à côté d'une maternité d'huîtres.
Oui, voilà, c'est une nursery. Donc les huîtres filtrent l'eau, elles mangent le phytoplancton, elles ingèrent ça, elles rejettent du coup azote, phosphore, CO2. Et ça favorise la croissance des algues. Ça veut dire qu'on va rendre l'eau pratiquement plus propre qu'on ne l'a prise au départ.
Ouais, intéressant. Virginie, votre producteur d'algues, il n'a pas fait ça toute sa vie, si, c'est ça ?
Non, il vendait des télévisions et des écrans plats. Cédric, hein, vous avez voulu changer de vie, en fait.
C'était juste au moment où les écrans plats sont apparus et on a posé du téléviseur au mètre carré. Moi, j'aime pas trop ça. En plus, on me demandait souvent de poser des téléviseurs dans les chambres des enfants et ça, moi, j'ai l'impression d'être un criminel quand je fais ça. Du coup, je le vivais mal. Et un soir, j'entends Jacques Attali à la radio qui dit « De toute façon, en 2050, on sera 9 milliards. Si on veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. » J'ai dit « Ah bah ça, c'est rigolo. » Et du coup, on est parti à l'aventure. On a vendu tout ce qu'on avait. On est venu là et on est venu faire du sel parce que sur l'île de Ré, à l'époque, il n'y avait pas d'algoculture du tout.
Est-ce qu'il faut une formation spéciale pour devenir algoculteur ?
Alors c'est de la biologie marine, hein. Moi je viens pas du tout de ça, donc oui j'ai fait une petite formation alors en deux parties avec un centre technique dédié aux algues en Bretagne.
Et on gagne bien sa vie quand on est algoculteur ?
Aujourd'hui je pourrais pas vivre exclusivement du commerce de l'algue, et ça se développe. Là nous on fait disons des produits autour du marais salant, donc on fait du gros sel gris, de la fleur de sel, on fait des salicornes, des caramels, et les algues font partie de ça.
Et alors c'est vraiment un aliment d'avenir ?
Oui, alors complètement, parce que il n'y a pas de produits phytosanitaires, pas de problème d'eau douce.
Et les algues, en plus, ça capte le carbone, donc ça pourrait servir à lutter contre le réchauffement climatique si on cultivait plus d'algues.
Oui, tout ce qui est photosynthèse, ça capte le carbone.
Donc là, ça fait une heure qu'on ramasse les laitues. On en a combien ?
On a à peu près là 50 kilos chacun, deux grosses caisses par personne, ouais, c'est ça. Elle est belle, là, c'est bien.
Voilà, donc une belle récolte. Et maintenant, il va falloir sécher les algues parce qu'elles sont vendues un peu comme du persil en poudre. Elles sont séchées et broyées.
Donc là, on a un séchoir à basse température. Et la laitue, il faut savoir que c'est 92% d'eau. Du coup, là, si on met 500 kilos, on va se retrouver à devoir enlever quand même une bonne quantité d'eau.
Et alors ça, on va en faire quoi ?
Tiens, nous, par exemple, on fait des pâtes aux algues. On fait de la mayonnaise dans laquelle on en met. On la vend directement en paillettes à utiliser un petit peu comme la levure de bière sur la salade. On peut en mettre aussi sur les moules pour les faire ouvrir. Ça renforce un petit peu le côté iodé.
D'accord. Ah oui, je goûte là, c'est particulier. Ça me rappelle Yves Parlier qui était rentré justement d'une grande course qui nous avait fait goûter ces petits algues. C'est très très bon. Ça vous a donné, ça vous a plu, ça vous donnait envie de changer de métier, Virginie ?
Bah écoutez, oui, pourquoi pas, parce que le bureau est plutôt sympa, hein, avec au loin la mer, là je suis dans les clairs à huîtres, sur l'île, magnifique. Mais bon, je pense que vous me manquez quand même un petit peu à la rédaction, donc je vais revenir vous voir. Cela dit, c'est un très très beau métier d'être dans la nature, et puis surtout de contribuer à produire sans doute un aliment d'avenir. Donc merci à Cédric de nous avoir accueillis au milieu de ces laitues. Et si vous voulez voir les photos, les vidéos de cette cueillette, bien vous allez évidemment sur rtl.fr.
Ah oui, on y court. Et puis on va sur le podcast. Évidemment, il y a plein de podcasts intéressants, dont le vôtre, bien sûr. Virginie Garin, responsable du service qualité de la vie. Allez vous promener, hein, sur la plateforme RTL, sur votre appli préférée, vous retrouvez, il y a de tout. Hein. Ça va du football avec On refait le match jusqu'à la politique avec d'excellents podcasts et focus de Marion Calais. Il y a plein de choses à retrouver, bien sûr, sans modération sur votre appli préférée. Dans une minute maintenant, vous aurez la parole. 3210, 3210, on va reparler évidemment de tous les sujets qui vous ont concerné, notamment l'humanité qui aujourd'hui a consommé à ce jour tout ce que notre Terre peut produire en un an sans l'épuiser. Ça vous intéresse ? On a fait constat, maintenant c'est à vous de trouver des solutions, comme à nous bien sûr. 3210 3210, puis on parlera emploi. C'est fou, hein, ces jeunes qui veulent changer de leur façon de vivre, travailler 4 jours, travailler où ils veulent, même en télétravail. Venez nous en parler vous aussi, 3210 3210. Vous êtes sur RTL, vous avez bien raison, il est 13h pile.
RTL midi, Christophe Pacaud.